Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
C'est un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année radiophonique. Merci beaucoup de repartir avec nous sur les ondes de Radio Présence.
Eh bien, plaisir partagé pour la quatrième année.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir un petit peu déjà les rendez-vous qui se profilent à l'horizon, et il y en a dans les jours à venir pour le diocèse de Tarbes et Lourdes, peut-être un petit point sur votre été, parce qu'après tout, nous n'avons pas eu de nouvelles à la radio pendant 2 mois,
oui,
mais vous en avez fait des choses, Monseigneur, pendant
deux
mois.
Déjà, j'ai pris un peu de vacances, si je peux commencer par là.
J'ai pris
une petite semaine, rien que pour moi, en solo, tout début juillet. Et puis, j'ai repris une petite dizaine de jours avec ma maman, début août, pour faire un petit tour de la famille, et puis quelques travaux dans sa maison pour la rendre plus pratique pour elle. Voilà, donc ça, c'est les vacances. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre de moments partagés importants à Lourdes, où j'ai posé mes affaires autour du 15 juillet jusqu'au week-end dernier. Donc, parce que, ben voilà, les grosses activités. Je suis resté à Lourdes quasiment à 100% de mon temps. Donc, il y a eu, alors dans le désordre, la célébration des 140 ans de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Ah oui.
Très solennelle, très très belle. Il y a eu aussi autour des miracles de Lourdes, 2 moments importants. La rencontre de l'ancien archevêque de Liverpool, qui m'avait accueilli au mois de février dernier pour le 71e miraculé, qui était en pèlerinage avec Liverpool. Mm-hmm. Et voilà, il y a eu un certain nombre de moments importants d'action de grâce pour ce diocèse de Liverpool, avec le nouvel archevêque de Liverpool. Donc j'ai passé un moment avec eux. Et puis une très très belle rencontre autour d'une conférence de presse avec la 72e miraculée, Madame Antonia Racco, une Italienne
oui.
Bouleversante. Vraiment, ça a été une rencontre très 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 forte. Voilà. Bien sûr, il y a eu début juillet, comme tout le monde s'en rappelle, notre pèlerinage diocésain dans le cadre de l'année jubilaire à Notre-Dame de Garaison.
Oui.
Et puis celui à Notre-Dame de Puellaen, qui a été un très très beau moment aussi.
Oui. Mmh.
Et nous sommes à la veille bientôt de celui de Notre-Dame des As. Voilà. Donc un moment diocésain très fort, comme chaque fois, très différent, marqué par la personnalité du lieu et puis les chrétiens de ce lieu. Un moment aussi partagé avec les communautés monastiques qui sont présentes à Lourdes. Alors, je mentionne dans le désordre la célébration de la Sainte Claire, monastère des Clarisses, du temps passé avec nos sœurs carmélites de Lourdes pour l'élection de la prieure, de la supérieure, et donc rencontre de la communauté chaque fois, etc. etc. Du temps aussi au monastère des moniales dominicaines de Lourdes, et puis nos petites sœurs de Bethléem à Saint-Pé-de-Bigorre.
Alors, comment elles vont ces communautés? C'est l'occasion
de nous donner
des nouvelles.
Elles vont chacune diversement, en fonction des âges, des communautés, des problématiques qui leur sont propres aussi, des défis qu'elles ont à relever, qui ne sont pas si éloignés de ceux que le diocèse a à relever également, mais chacune dans sa personnalité, avec voilà, les sœurs qui sont là. Et pour moi, c'est pour elles aussi évidemment important de pouvoir avoir ce temps de rencontre avec moi, mais pour moi également très très important de pouvoir leur dire ma reconnaissance de leur présence, et je sais pouvoir compter sur leurs prières et leurs prières pour le diocèse aussi, et ça c'est extrêmement important. Il y a eu le pèlerinage national du 15 août à Lourdes. Alors l'an dernier je présidais ce pèlerinage, toutes les prédications qui vont avec. Cette année c'est l'évêque de l'Ariège, Monseigneur Benoît Schwind, qui présidait ce pèlerinage, mais évidemment je préside l'une ou l'autre célébration, notamment la veillée mariale du 14 août au soir, qui est un moment très très impressionnant.
Il y avait du monde, comme d'habitude.
Et puis je célèbre diverses messes, dont celle du 15 août, bien évidemment.
Mmh.
Et énormément de monde.
Ouais.
Énormément de monde. Et malheureusement, il faisait tellement chaud que, par sécurité, particulier en priorité pour les personnes handicapées, malades.
Mmh.
Il a été décidé le 15 août de ne pas célébrer sur la prairie à l'extérieur comme on le faisait d'habitude, parce qu'il faisait extrêmement
trop chaud.
Ouais. Et donc il y a eu 2 lieux de célébration, la basilique Saint-Pédis et l'église, la grande église Sainte-Bernadette. Et voilà, pour absorber à peu près la foule nombreuse qui était là à l'occasion de ce pèlerinage national. J'ai été invité ensuite, tout à fait fin août, a présidé le pèlerinage de Notre-Dame de Beaurain. Notre-Dame de Beaurain, c'est en Belgique, c'est un lieu d'apparition de la Vierge Marie. Entre le 29 novembre 1932 et début janvier 1933, elle est apparue 33 fois. Et l'évêque de Namur m'a invité à venir présider le pèlerinage de Beaurain, qui est lié à Lourdes. Et ça a été pour moi une découverte. J'avais déjà entendu parler de Notre-Dame de Beaurain, mais je n'avais pas encore visité le lieu. Et ma foi, c'est un... j'y reviendrai. Je me suis dit ça. C'est un lieu extrêmement attachant qui rayonne dans toute la Belgique, les Pays-Bas, le nord de la France et le Luxembourg. Des pèlerins nombreux qui viennent de toutes ces régions-là.
Donc vous vous êtes fait pèlerin là-bas.
Et je me suis fait pèlerin, mais enfin un président de le pèlerinage aussi. Et voilà, comme on le fait à Lourdes, dans les rues de la commune. C'est très très beau. Et voilà, et puis pour terminer à Lourdes, dimanche dernier, j'ai eu la joie pour la troisième année de présider le pèlerinage pour la prévention du suicide, pèlerinage national pour la prévention du suicide, pour sa troisième édition, et donc je présidais la messe de clôture à la grotte de ce pèlerinage, qui est évidemment un pèlerinage extrêmement émouvant et touchant, parce que les personnes qui sont là ont soit perdu un proche, soit elles-mêmes étaient tentées par le suicide, au travers des épreuves qui leur... Voilà. C'est un beau pèlerinage, tout simple, tout modeste, et je me prépare bientôt à présider, avec toutes les prédications qui vont avec, elles sont nombreuses, le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance.
Dans quelques jours.
Dont le directeur et notre directeur des pèlerinages diocésains, M. Philippe Cabidoche, et l'aumônier, le père Xavier Darod, bien connu dans le diocèse. Et donc, l'année dernière, ils m'ont demandé si j'acceptais cette année d'être celui qui préside et accompagne ce pèlerinage, ce que j'avais accepté. Et voilà, et puis j'ai repris aussi, j'y étais mardi de cette semaine, mes fonctions à Paris avec la première réunion pour la commission du pôle acteurs de l'Église que je préside au nom des évêques de France. Et là aussi, il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de défis, beaucoup de travail avec toutes les réformes des structures de la conférence des évêques. Et voilà, un été bien rempli et je suis très très heureux de retrouver nos auditeurs à l'occasion de ce rendez-vous hebdomadaire.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon de votre été. Alors bon, il y a l'un ou l'autre des points, notamment le dernier là sur votre mission au pôle acteur de l'Église, qu'on pourra évoquer à nouveau au long de l'année. Alors on va se pencher maintenant sur la vie, l'actualité de la vie diocésaine, puisque dans quelques jours, lundi 8 septembre, c'est la fête de la Nativité de la Vierge Marie, c'est la fête du diocèse. Il se passe pas mal de choses, alors notamment la messe à 18h30 lundi soir en la cathédrale de Tarbes, une messe particulière puisque, on l'a compris, c'est la fête du diocèse, mais en plus c'est un jour d'étape pour deux de nos séminaristes.
Alors, le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge, la fête patronale du diocèse, vous venez de le dire, et elle n'était pas spécialement marquée comme fête diocésaine, comme moment diocésain ou rendez-vous diocésain, et j'ai souhaité, depuis deux ans, je crois, en faire vraiment un rendez-vous diocésain. Il y a deux ans, on s'était donné rendez-vous là avec les prêtres qui participaient à la retraite à l'abbaye de Tournaille, et la dernière messe de la retraite avait été la concélébration à la messe de la Nativité de la Vierge à la cathédrale. Et dans les réformes diverses du diocèse dont on va reparler, j'ai souhaité aussi que le presbytérium du diocèse avec les diacres puisse se réunir au moins trois fois dans l'année en assemblée générale du presbytérium, mais pas seulement le mardi saint avec la messe chrismale ensuite célébrée à la cathédrale, et notamment le 8 septembre d'en faire une tradition, de faire que le 8 septembre soit une journée avec l'ensemble des prêtres et diacres du diocèse, ce qui sera le cas cette année pour la première fois. Et ensuite, on célébrera tous ensemble à la cathédrale le soir pour la fête de la Nativité. Et cette année, au cours de cette messe, Corentin Laguens, séminariste du diocèse, étudiant à Rome depuis l'année dernière, sera institué lecteur et acolyte, ce qui est un engagement et un moment important où il reçoit ses ministères avant éventuellement de recevoir l'ordination diaconale dans un an. Et puis Elia Salkaï, qui était cette année séminariste d'origine libanaise, accueilli à la paroisse de Bagnères de Bigorre et qui rejoint la paroisse de Tarbes, Elia sera lui admis parmi les candidats au ministère presbytéral, ce qui est le premier rite dans le rituel des ordinations. et donc qui fait de lui officiellement, il reçoit la mission de se former pour devenir prêtre pour le diocèse.
Ça veut dire qu'il pourrait être ordonné diacre l'année prochaine?
Il pourrait lui aussi être ordonné diacre l'année prochaine.
Attends, deux belles nouvelles, et enfin deux occasions encore plus de faire la fête lundi avant la
voilà,
fête.
Voilà, en tout cas, voilà, c'est la fête de la Nativité de la Vierge, voilà. Fête patronale du diocèse, et j'invite vraiment les diocésains qui sont disponibles, qui le souhaitent, à nous rejoindre pour cet autre moment diocésain. Deux jours après le pèlerinage à Eas, qui est aussi un autre moment du diocèse et pas seulement des habitants des vallées concernées.
Effectivement, on en reparlera à la fin de cet entretien. Alors, quand même, un retour sur l'objectif de cette rencontre avec tous les prêtres, cette rencontre du presbytérium, il y a beaucoup de changements qui se mettent en place depuis le 1er septembre dans le diocèse. Les paroisses sont réorganisées. Vous allez plancher particulièrement là-dessus, de quoi vous allez parler lundi?
Alors, pas spécialement, parce que ça, on a eu l'occasion de le faire moult fois avec les prêtres, avec les membres des différents conseils, notamment le conseil diocésain pastoral, et puis avec l'ensemble du diocèse, les EAP, les paroisses, les gens des paroisses, en fait, etc., etc. Bon. Donc, bien sûr, on va évoquer la mise en place de ça, puisque ça commence, effectivement, ça a commencé le 1er septembre, officiellement, mais après, on se donne des semaines et des mois, voire des années,
pour la mise en œuvre,
tout cela soit bien, bien établi, quoi, si on peut dire. Mais c'est surtout une journée, dans le cadre de la réforme du diocèse, justement, j'ai souhaité pouvoir plus et mieux prendre soin des prêtres. Et ayant constaté la joie qu'ils ont à se retrouver le mardi saint et célébrer la messe chrismale ensemble, eh bien de décider de vivre une journée analogue 2-3 fois dans l'année. Une qui serait le mardi saint, une journée davantage détente, et deux autres journées, donc le 8 septembre et puis une autre date au printemps, qui sont davantage un temps de partage, de réflexion, où on se pose ensemble et où on parle de leur vie, de leur ministère. Et la question que je vais leur poser, c'est comment est-ce qu'ils pensent que je peux plus et mieux les accompagner, les aider, de quoi ont-ils besoin de ma part ou de la part de mes collaborateurs avec qui on partage plus au quotidien la charge du diocèse, quoi. Et donc c'est vivre cette proximité, la fraternité avec tous les prêtres, parce que les prêtres du diocèse présents dans le diocèse sont très très divers. Il y a les prêtres diocésains âgés, un peu plus jeunes, puis il y a les prêtres fidèles et autonomes, il y a les prêtres religieux, il y a les chapelains à Lourdes, il y a des prêtres qui sont retirés à Lourdes venant d'autres diocèses, et j'ai passé du temps cet été pour rencontrer ces prêtres-là que je connais pas bien mais qui sont dans le diocèse. Bref, prendre soin des prêtres, voilà, c'est une portion du peuple de Dieu dont la théologie et le droit d'Église disent qu'ils sont les plus proches collaborateurs et avec qui l'évêque porte la charge pastorale du diocèse. Et donc, c'est cette attention-là que je veux marquer par ces journées-là.
Alors, je voudrais qu'on parle, Monseigneur Mika, de la lettre que vous avez adressée à tous les catholiques du diocèse juste avant les vacances, au début de l'été en tous les cas. Vous expliquez tous ces changements, vous expliquez un petit peu comment les choses vont se dérouler. Alors, on ne va pas décortiquer l'ensemble de la lettre dans cette interview, mais peut-être que dans les interviews à venir, dans les semaines à venir, on va prendre un ou deux points pour faire un petit focus. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va commencer par cette histoire de conseil paroissial que vous présentez dans cette lettre, puisque vous dites au service de la paroisse, il y aura un curé, éventuellement d'autres prêtres et diacres, exerçant sa charge avec une équipe d'animation pastorale, une EAP, équipe de confiance resserrée et nommée par lui, qui partage la charge pastorale du curé. Cette équipe et le curé se réunissent souvent, idéalement une fois par semaine. Ça, c'est pour l'EAP. Et puis, vous parlez du conseil paroissial, constitué par élection par tous les paroissiens et représentant les multiples réalités de la paroisse et qui se réunit au moins 4 fois par an. Cet objectif du conseil paroissial, c'est un sacré défi, ne serait-ce qu'à mettre en œuvre, ne serait-ce que pour cette question d'élection.
J'ai constaté dans le diocèse une grande confusion entre ces deux instances qui sont extrêmement différentes, que sont l'équipe d'animation paroissiale, l'EAP, et puis le conseil paroissial, le conseil pastoral. Les deux peuvent être considérés comme canoniques. Une est dans le droit universel de l'Église, c'est le conseil paroissial, le conseil pastoral, avec le conseil des affaires économiques, ou le conseil économique de la paroisse. Bien. Ça, c'est exigé par le droit canonique. Le conseil pastoral, c'est un conseil du pasteur, donc du curé, qui se réunit, comme je l'ai indiqué, 3-4 fois dans l'année, et qui représente la paroisse telle qu'elle est. J'ai envie de dire qu'elle plaise ou non au curé, c'est la paroisse à laquelle il est envoyé. Et ce conseil est constitué des différentes réalités de la paroisse. Des gens que le curé aime bien, des gens qu'il aime moins bien, mais qui sont représentatifs de la paroisse. Voilà. Donc des différents quartiers ou des différentes communautés de la paroisse, selon que l'on est en ville ou que l'on est dans la campagne, dans le rural.
Ouais.
Il faut que toutes les zones de la paroisse géographique soient représentées, que toutes les générations soient représentées, que toutes les sensibilités soient représentées, que la catéchèse soit représentée, la pastorale des jeunes, la pastorale des personnes âgées et malades, les visiteurs des EHPAD, que sais-je. Ce conseil doit être représentatif de la réalité, de la physionomie de la paroisse telle qu'elle est. Pas telle qu'on la rêve, pas telle qu'on la souhaiterait, etc. C'est une espèce d'assemblée nationale, de parlement, qui se réunit et qui représente la nation, qui représente la paroisse dans sa globalité, dans ses réalités, et qui fait un travail lent et long, qui n'est pas les mains sur le volant, les commandes, le levier de vitesse, la pédale d'accélérateur ou de frein, au quotidien, à devoir conduire la voiture là tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, c'est un groupe qui est plus de réflexion au long cours, qui fait remonter vers l'équipe pastorale, vers le curé et ses collaborateurs immédiats qui portent la charge pastorale au quotidien, ça c'est l'EAP, qui fait remonter vers l'équipe pastorale, les prêtres, le curé, les vicaires, s'il y en a, etc., qui fait remonter un peu le climat de la paroisse, sa sensibilité, ce qui se passe, comment ils réagissent à telle ou telle initiative, qui peut proposer une initiative, un rassemblement de la paroisse, une idée, mais pour dans un an et demi. Enfin, vous voyez, c'est des trucs un peu au long cours, quoi. C'est un parlement qui travaille lentement. Voilà, une espèce de Sénat avec des gens qui représentent toutes les réalités de la paroisse.
Donc ça veut dire beaucoup de personnes.
Alors ça, c'est le conseil pastoral. Donc beaucoup de personnes. Bon, l'EAP, c'est une équipe très resserrée, qui est l'équipe qui, alors constituée de ministres ordonnés, de consacrés, de laïcs, choisie par le curé, qui ne cherche pas à être représentative de toutes les réalités de la paroisse, mais qui est l'équipe qui, pendant 3 ans, va, avec le curé, porter la charge pastorale. Donc c'est des gens qui ne sont pas là pour défendre l'intérêt de leur quartier ou de la catéchèse parce qu'ils sont catéchistes, ou de la pastorale des hôpitaux parce qu'ils sont aumôniers dans un hôpital, mais qui, avec le curé et comme lui en quelque sorte, acquiert un cœur qui porte toute la paroisse et toutes ses réalités, mais plus largement aussi le diocèse et l'Église universelle, et qui, avec le curé, porte la charge pastorale. Le canon qui organise ça, c'est le canon 519, pour ceux qui veulent aller lire le code de droit canonique, c'est-à-dire quelques chrétiens de la paroisse qui, avec lui, partagent le souci pastoral du pasteur, qui est le curé. Donc, à l'échelle de la paroisse, il y a un pasteur légitime, c'est le curé, et avec lui, associé à cette charge pastorale, associé à la charge qu'il apporte avec lui réellement, canon 519, quelques chrétiens avec qui ils prennent le petit déjeuner tous les jours, et ensemble, ils sont responsables de l'animation pastorale, de la vie pastorale de la paroisse. Voilà, ça c'est l'EAP. Alors, j'ai constaté en arrivant une grande confusion dans les esprits, et un grand mélange. Je me souviens notamment d'une soirée où j'avais été invité à rencontrer l'EAP d'une paroisse à l'ouest du diocèse, et quand je suis arrivé, il y avait 100 personnes dans la salle. Je me suis dit, ça c'est pas l'EAP. C'est pas une EAP. L'EAP, c'est 5 personnes, c'est pas 100.
Ça, ça pourrait être le conseil paroissial.
Mais même pour un conseil paroissial, c'est énorme. C'est beaucoup. Un conseil paroissial, c'est 20 personnes. Voilà, 20, 25 personnes, vous voyez. L'EAP, c'est 4-5 personnes. C'est ça le rapport d'échelle. Et donc, on appelle le conseil ce qui est en réalité l'EAP, on appelle EAP ce qui est en réalité n'est ni un conseil ni une EAP, mais encore autre chose, c'est l'ensemble des services d'une paroisse et des quartiers, les chrétiens relais des villages, etc. etc. Donc ça, c'est l'ensemble des services, et c'est très important de réunir ces gens-là. Mais c'est pas ça une EAP. Une EAP, c'est un groupe qui, avec le curé, au quotidien, il partage le souci pastoral. Voilà, c'est ça.
Alors, une des grandes, des points importants, c'est que les membres de l'EAP, vous l'avez dit, sont choisis par le curé, alors que les membres du conseil paroissial sont choisis, élus par les paroissiens.
Et oui, pour être représentatif de la paroisse, il faut qu'il soit élu par la paroisse. Et le curé, ben, il accueille cette élection. Et il accueille les gens que la communauté chrétienne dont il est le curé a désigné pour les représenter dans ce conseil. Voilà.
Et donc ça, concrètement, les paroisses ont quelques semaines ou quelques mois pour organiser...
Oui. Parce que la lettre que j'ai envoyée au début de l'été, ou fin juin, c'est pour annoncer les changements de paroisse, la réorganisation des services diocésains et de la gouvernance diocésaine. Bien. Mais c'est un abrégé de quelque chose qui est annoncé depuis pas mal de temps, qui s'appelle la lettre pastorale, où bien évidemment je développerai tout cela de manière beaucoup plus déployée, développée, large, et en le fondant dans la théologie de l'Église, et surtout dans ce pourquoi l'Église est faite, c'est-à-dire annoncer l'Évangile, la mission. Tout ça est finalisé par la mission. Ce n'est pas de l'organisation pour de l'organisation. C'est la mission qui finalise toutes ces affaires-là. Et ça, j'aurai l'occasion de le développer dans la lettre pastorale qui, normalement, devrait être disponible à partir du pèlerinage diocésain.
Donc si, ici ou là, on s'inquiète de la manière dont on peut ou on doit organiser concrètement les élections dans les paroisses, là, tout de suite,
Il ne faut
pas se précipiter, c'est ce
qu'on comprend. Parce que c'est un processus long, c'est une réforme longue qui exige une adhésion des cœurs et des esprits, et pour ça il faut faire de la pédagogie. Ça fait 2 ans et demi qu'on y travaille, très bien, mais voilà, il y avait besoin de restructurer notamment les paroisses, les services, ça c'était une urgence. Donc la lettre que j'ai envoyée fin juin, elle annonce ce qu'il en est avec quelques éléments qui expliquent pourquoi c'est comme ça, pas autrement, la procédure qui a conduit à ces décisions. Bon, très bien, tout ça, tout le monde l'a bien en tête. Mais ensuite, il y aura un document beaucoup plus profond, déployé, qui pourra, lui, servir de référence pour le lire ensemble, en équipe, partager. Et puis, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, bon, je vais... Pendant 1 an et demi, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour faire le tour des paroisses et connaître, moi, le diocèse dont j'ai la charge. Et là, l'année qui s'ouvre, je vais reprendre mon bâton de pèlerin pour faire le tour des uns des autres et puis expliquer les choses, redéployer, faire de la pédagogie si vous voulez, et puis entendre un petit peu aussi les réactions des uns des autres, mais inviter à la confiance, à la patience, à garder son calme et puis à ne pas être inquiet, stressé, etc., etc. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tout ça, c'est... voilà, c'est... On est en chemin, on est en chemin. On est des nomades, je me plais à répéter ça tout
Dieu
le temps.
Dieu nous aime nomades.
On défait la tente, puis on marche un peu, puis on la replante. Alors ben là, je viens de décider d'un terrain où on replante notre tente pour quelque temps. Et puis peut-être que dans 5 ans, et peut-être que dans 10 ans, ben, on redéfera la tente, cette tente-là, et on ira la planter un peu plus loin. Et puis c'est l'histoire de l'Église. Donc surtout, voilà, je passerai mon temps à dire cela à temps et à contre-temps tout au long de l'année qui s'ouvre.
Bon, et le micro de Radio Présence vous est ouvert, bien sûr, pour en reparler chaque semaine si vous le souhaitez. Monseigneur, on doit s'arrêter parce qu'on arrive au terme de cette émission. En tous les cas, on donne rendez-vous tous les catholiques du diocèse ce samedi 6 septembre au sanctuaire Notre-Dame des As pour ce rendez-vous qui est vraiment diocésain, qui est une étape de notre année jubilaire. Nous avons rendez-vous à partir de 11h pour la messe que vous présiderez.
Sous les yeux la magnifique affiche qui a été réalisée cette année par le service de la communication du diocèse, où Notre-Dame de la Cède se promène d'étape en étape, et voilà, on approche des 2 dernières étapes que sont le pèlerinage à Notre-Dame des As et le pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes fin octobre, et j'ai dans le cœur le souvenir des étapes précédentes, Notre-Dame de Pietà, Notre-Dame de Garaison, Notre-Dame de Puellaun et le pèlerinage à Rome, et c'est une belle année qui s'achèvera à l'épiphanie à la cathédrale.
Merci beaucoup Monseigneur Mika, à la semaine prochaine.
Avec plaisir.